l'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, on se retrouve cette semaine avec Monsieur Patrice Toé, qui est maître de conférences et d'anthropologie, donc à l'université Nasi Boni de Bobo-Dioulasso, dans le département sociologie et économie rurale. Alors, comme je m'étonnais un petit peu de voir associer l'anthropologie, la sociologie et l'économie rurale, la semaine dernière, le professeur Toé nous a bien expliqué comment le souci de son unité, de son lieu d'enseignement et de recherche, le souci d'introduire toute la dimension humaine et le côté novateur de ce souci. Et nous avions pas mal échangé à ce niveau-là, à ce propos. Et donc, c'était tout naturellement que je lui ai demandé de revenir pour finir un peu, qu'on avance un petit peu dans notre propos. Donc, Monsieur Toé, est-ce que vous pourriez peut-être nous... Alors, vous disiez aussi que vous étiez enseignant-chercheur. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, ou un peu plus même, sur la recherche que vous effectuez? Voilà.
Alors, comme je l'ai dit, je suis enseignant-chercheur à l'IDR. L'IDR, c'est, si vous voulez, c'est cet institut qui forme des ingénieurs pour le monde rural. Et donc, vous comprenez que dans cet institut, que la plupart, n'est-ce pas, des enseignants qui s'y trouvent soient des enseignants issus, n'est-ce pas, des sciences dites dures. Il n'y avait pas de place pour les sciences molles, enfin dites molles. Alors j'arrive donc les sciences humaines.
Oui, d'accord.
C'est comme ça qu'on nous appelle, les sciences molles.
Ah, oui, bon, science molle. Si vous voulez. Donc j'ai fait une science molle, d'accord.
Les sciences humaines. Alors, pour tout dire, j'arrive donc dans cet univers avec un tout autre regard. Donc, je me mets donc de façon transversale sur ce que les collègues font, ce que l'agronome fait, le zootechnicien et le forestier. Alors, donc, je me trouve effectivement avec un domaine de recherche, si vous voulez, très très large, en même temps qui brasse effectivement l'agronomie, la zootechnie et la foresterie. Alors, je peux dire que je me suis consacré essentiellement, si vous voulez, aux questions de gestion des ressources naturelles, les questions de conservation des ressources naturelles. Et l'essentiel de mes travaux aujourd'hui sont axés sur, si vous voulez, sur la problématique, n'est-ce pas, de la gestion des ressources naturelles, la problématique, n'est-ce pas, de conservation des forêts, des parcs, essentiellement, tout ce qui tourne autour effectivement de toute cette problématique en matière, n'est-ce pas, de problèmes de légitimité, de légalité des acteurs autour, n'est-ce pas, de la gestion de la ressource, les questions de ressources disputées, les conflits autour des ressources, et si vous voulez, enfin les questions de la gouvernance. Comment gérer effectivement ces ressources. Une problématique effectivement d'autant plus intéressante que nous sommes dans une logique aujourd'hui de décentralisation au Burkina Faso et que de plus en plus effectivement la gestion des ressources au niveau des territoires, au niveau des terroirs est de plus en plus léguée effectivement aux communes. Alors donc c'est si vous voulez donc les populations à la base. Alors donc si vous toute cette problématique nous intéresse et on s'intéresse effectivement à ces questions et l'axe de recherche que nous avons développé porte essentiellement sur patrimoine, société et développement. Patrimoine, la ressource naturelle comme patrimoine, le patrimoine ressource, le lien entre, si vous voulez, ça pose la problématique du lien entre l'homme, l'environnement et la société, essentiellement.
Oui, et l'environnement, effectivement, on revient, bon, on dit la Terre. Alors quand vous parlez de ressources, effectivement, les ressources de la Terre, c'est les ressources originelles pour tout humain. De toute façon, que ce soit les ressources animales ou végétales. Et donc c'est vrai que ça se sont ajoutés tout ce que vous venez de dire, et la politique, etc. Et je trouve que c'est intéressant que vous nous parliez de coopération décentralisée, de cette décentralisation, parce que là aussi, quand même, c'est, ça correspond vraiment à une priorité, non, pour...
Oui, beaucoup plus, parce que, vous savez, nous sommes dans des processus au niveau des États aujourd'hui où la problématique, n'est-ce pas, de la décentralisation intéresse aussi bien le politique que, si vous voulez, que le chercheur. Mmh. Et sur le plan politique aujourd'hui, la tendance aujourd'hui, c'est de d'arriver effectivement à réussir une décentralisation au niveau national, mmh. Ce qui suppose effectivement faire en sorte effectivement que le pouvoir soit effectivement davantage légué, n'est-ce pas, aux populations à la base, mmh. et ce qui sous-entend également la gestion, n'est-ce pas, si vous voulez, des ressources naturelles au niveau local. Mmh. Et ça, ça devient intéressant, d'autant plus qu'on assiste à une forme, n'est-ce pas, de, si vous voulez, pour l'État, un processus effectivement de passer, de léguer, si vous voulez, un pouvoir légal, mmh. puisque les ressources étaient gérées effectivement de façon centralisée, n'est-ce pas, par l'État, mmh. et léguer ce pouvoir effectivement aux populations, où à ce niveau se posent beaucoup plus effectivement les questions effectivement de légitimité. Mmh. Comme vous le dites, effectivement, la terre par excellence, effectivement, c'est la ressource, mmh. La ressource patrimoniale par excellence, et ces ressources là même si on prend le cas des forêts, au départ, effectivement, c'est des ressources qui appartiennent aux populations. La forêt, c'est une forêt. La forêt appartient, n'est-ce pas, à un village, ça appartient à un lignage, et à un moment donné, il vient à l'idée, effectivement, de protéger, d'encadrer, de conserver, effectivement, une forêt. Donc, qui appartient, n'est-ce pas, à un village, qui appartient, n'est-ce pas, à un lignage. Alors, donc, là, on est sur un terrain où la légalité va se confronter quelque part, n'est-ce pas, à la légitimité. Donc, nécessairement, il y a des conflits dans les modes de gestion. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est qu'effectivement, avec la décentralisation, l'État conserve effectivement ses ressources effectivement aux populations locales, mmh. et les populations locales, par des trichements, n'est-ce pas, des associations, des groupements, ont pour rôle effectivement de gérer, n'est-ce pas, ces ressources. Alors, il s'ensuit que dans ce genre de processus, on assiste, n'est-ce pas, à un retour, n'est-ce pas, des pratiques que l'État redoutait, n'est-ce pas, pendant longtemps, parce que la question de la conservation, on assiste à un retour des pratiques traditionnelles, mm-hmm. Qui forcément ne milite pas, n'est-ce pas, totalement à la protection de la ressource. Donc, ces pratiques-là de gestion qui ne sont pas beaucoup plus effectivement, qui n'aident pas la conservation, posent un problème aujourd'hui, n'est-ce pas, à la conservation, n'est-ce pas, des ressources naturelles, n'est-ce pas, en milieu rural. Mmh. Alors donc, c'est d'essayer de voir effectivement comment concilier des pratiques modernes et les pratiques traditionnelles dans la gestion effectivement de ces ressources naturelles. Voilà, donc nous sommes, si vous voulez, sur un terrain de dialogue, un terrain de négociation entre pratiques légalistes, si vous voulez, gérées par l'État, et les pratiques, j'allais dire, traditionnelles, effectivement, des normes traditionnelles, si vous voulez, qui sont toujours portées, effectivement, par les populations à la base. Mm-hmm. Alors, donc, c'est ce dialogue qu'il faut réussir dans la gestion, n'est-ce pas, des ressources naturelles, et c'est un terrain, effectivement, sur lequel nous investissons.
Alors justement, je suis en train de me dire, ben oui, ressources naturelles et ressources humaines. Il faut bien que tout, à un moment, puisse se combiner pour que, justement, entre tout cet héritage qu'il ne faut pas renier, qui est quand même à conserver, et puis cette entrée dans la modernité, il faut un moment que ça puisse se concilier. Et ça me faisait penser à l'Espagne. Parce qu'en Espagne, évidemment, l'Espagne a été occupée pendant 6 siècles par les Arabes. Hein, il y avait le royaume Al-Andalus qui ont fait des énormes travaux d'irrigation, de plantation. Et actuellement, en Andalousie, il y a encore le tribunal de l'eau, c'est-à-dire il y a toute la politique, effectivement, comme ça, il peut y avoir dans tout pays, et au Burkina. Et en même temps, il y a quand même cette conservation de ce tribunal de l'eau qui semble encore très importante. Et donc, à un moment, c'est sûr qu'il a sûrement fallu, je ne sais pas comment ils ont fait les Espagnols, mais je sais que j'ai vu des reportages là-dessus, et je sais que ça existe quand je suis allée en Andalousie, on en a parlé. Voilà, et c'est vrai qu'à un moment, il ne faut pas renier le passé, et en même temps, il faut pouvoir rentrer dans une ère sans justement tout détruire, parce que, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, on est sur des ressources. C'est-à-dire que vraiment, et ressources, on est même en train de parler de sources, on est en train de parler d'eau aussi. Effectivement, il y a tout ça à concilier. Donc je pense qu'en effet, votre rôle, là, il est plus que justifié, quoi.
Ah oui, mais surtout d'autant plus que pendant longtemps, les méthodes centralistes n'ont pas marché.
Bien sûr, oui.
Alors donc, pendant longtemps, l'État a joué ce rôle. C'est de gérer les forêts de façon centralisée, par la force. Voilà. Donc on aménage une forêt, on déménage. On déménage par force les populations et on fait une barrière. Toute personne qu'on trouve dedans, il est amendé. On le traite effectivement de braconnier. Et la forêt est hermétiquement effectivement fermée à l'exploitation. Mmh. Alors donc, ces méthodes effectivement ont montré les limites. Mmh. Alors aujourd'hui, on évolue vers beaucoup plus effectivement les approches participatives, la prise en compte effectivement des préoccupations des riverains, l'implication des riverains, n'est-ce pas, dans la gestion, n'est-ce pas, de ces ressources. C'est très important parce que, comme je l'ai dit, la forêt a toujours appartenu à quelqu'un. Elle appartient à un village, elle appartient à un lignage. Alors, les relations entre l'homme et la forêt, c'est des relations effectivement qui sont des relations historiques, parce que c'est l'homme en relation avec sa forêt, parce que le paysan effectivement qui va chasser dans sa forêt, mais il va prélever des ressources, il l'a fait pendant des années, il l'a fait, il est né trouvé, et il est en relation effectivement à la forêt, c'est là il prélève effectivement la protéine. Alors, qu'on considère cela comme effectivement du braconnage, des pratiques interdites, oui, mais comment faire effectivement que sa relation avec la forêt, qu'il puisse comprendre effectivement la nécessité de préserver effectivement la ressource, la nécessité de savoir prélever, et comment prélever, et ça... Et l'impliquer effectivement dans cette gestion, je crois que c'est les démarches effectivement chez lesquelles aujourd'hui on surfe, mais qui sont effectivement des démarches innovantes et qui permet aujourd'hui une meilleure prise en compte effectivement des préoccupations des populations riveraines, et aussi qui fait qu'on arrive effectivement à réussir ces politiques de conservation et de conservation au niveau, n'est-ce pas, des forêts.
Surtout qu'on voit bien que les forêts, on en parle, on a parlé tout à l'heure de Yacouba Savadogo, qui a planté une forêt. On voit bien quand même dans votre pays, qui est un pays a priori dit sahélien, on voit bien l'importance, et il y a des poches vertes. Enfin, moi j'en connais quelques-unes, surtout dans le sud, à Bobo, où vous vous trouvez. Voilà, et c'est vrai que c'est important, et la préservation, mais comme vous dites, avec une association, une implication et un respect aussi de ces gens qui sont millénairement dans leurs espaces, comme vous dites, ça leur appartient, la forêt leur appartient, ils appartiennent à la forêt d'une certaine façon, et à un moment, s'ils doivent changer ou transformer un petit peu leur façon d'être ou de voir, c'est important que ce soit d'une façon, justement, dans un esprit d'association. Quoi. Voilà, donc là-dessus, vous avez aussi un rôle important à jouer.
Naturellement, parce qu'il faut, il faut aider dans ce genre d'accompagnement. Et vous savez, aujourd'hui, c'est à quoi on assiste effectivement, c'est que, bon, c'est aussi bien l'État, les populations et les associations, tous sont considérés comme étant des acteurs autour, effectivement, dans, si vous voulez, dans, cette, dans ce genre d'exercice. Hein, ce sont des acteurs. Et en tant qu'acteur, effectivement, il y a des stratégies. Mm-hmm. Il y a des stratégies, il y a des enjeux. Des mm-hmm. enjeux qui sont différents, des objectifs mm-hmm. différents. Mm-hmm. Alors, il est évident que notre rôle, effectivement, c'est de chercher effectivement à maîtriser effectivement ces enjeux. Comment impliquer les acteurs, connaître les enjeux de chacun, connaître les objectifs de chacun, de sorte effectivement à ce que dans la politique d'espace de conservation, dans la politique de mise en œuvre effectivement, que les intérêts puissent effectivement concorder, mmh. coïncider. Mmh. Hein, et, dans un pays effectivement où l'agriculture, comme on l'a dit, est effectivement importante, mmh. l'élevage est important, en même temps on veut conserver des forêts. Alors donc on est dans un dans une logique de dans une triptyque effectivement beaucoup plus complexe parce que faire l'agriculture, pratiquer l'élevage, conserver des forêts, ça c'est vraiment c'est un défi qu'il faut lever pour si vous voulez pour notre environnement.
D'accord, et avec un changement un peu, une évolution, un changement économique, où la tradition elle reste, hein, avec les impératifs voilà, d'autosuffisance alimentaire. Le cheptel burkinabé est très réputé, hein, la viande burkinabé est très réputée sur le continent africain, voilà. Et autant le conserver, mais en effet, en essayant que tout le monde puisse se retrouver là-dedans, même si à certains moments, il faut se pousser un peu et il faut aussi entendre la voix de l'autre, quoi.
Voilà. Naturellement.
D'accord.
Naturellement.
Donc là, au plan politique, vous pensez que ça, il y a un ministère de l'Agriculture qui est ouvert à ces choses-là aussi avec vous ou comment?
Oui, je crois que au plan politique, les choses avancent bien. Mmh. Vous savez que le Burkina vient de loin.
Oui,
sur ce plan, je crois que
ça de très près.
Il y a ce vent nouveau qui est en train de souffler, n'est-ce pas, sur le pays. Mmh. Et là-dessus, en tout cas, les indicateurs sont très, très, très au fixe. Je crois que nous sommes confiants effectivement que les années à venir effectivement seront les années de bonheur pour le Burkina.
D'accord.
Et malgré, j'allais dire, tous les défis qu'il faut, nous en sommes conscients, hein, parce que vous savez, un pays pouvoir qui vient, n'est-ce pas, dans un contexte du genre où les préoccupations sont toutes les priorités. Il est évident effectivement que les attentes sont nombreuses, hein, et ça ce n'est pas propre au Burkina, mais je crois que les autorités du moment sont sur le bon chemin.
D'accord, donc on est très content. Puis ça semble du bon sens, mais c'est vrai comme vous dites, comme tout est urgent et tout est sur, c'est vrai qu'on entend les gens, c'est difficile. Alors on a parlé de vraiment globalement, hein, au plan politique et tout, c'est très intéressant, hein, ce que vous nous apportez là, et j'aimerais qu'on revienne peut-être un peu au village du petit garçon qui a eu la chance d'aller à l'école.
Oui.
Et qu'on parle un petit peu de votre retour quand vous allez là-bas, parce qu'on en discutait tout à l'heure, et c'est vrai que moi, ce que je trouve formidable, c'est... j'ai beaucoup d'amis, hein, et des amis, des médecins, des chercheurs, enfin bon, au Burkina, et ce qui m'a toujours épaté, c'est donc des gens qui ont fait des études, qui sont partis même du pays, revenus, etc. Et ce que je trouve toujours formidable, c'est cet attachement à vos villages. Je trouve ça magnifique, il n'y a pas du tout de... Au contraire, il n'y a pas de niment du tout de cette chose-là. Et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre village, comment vous y revenez, qu'est-ce qui vous importe dans ce contexte-là.
Oui, vous savez, quand on arrive à avoir cette chance que nous avons de faire l'école, de réussir, hein, à réussir entre guillemets, c'est une manière de... Mais quand même d'avoir ce niveau... On a, de la même manière, nous avons effectivement ce devoir de redevabilité dans notre pays. Nous avons aussi ce devoir effectivement de rendre, n'est-ce pas, au village d'où nous venons. Mm-hmm. Et ça, c'est très important. Je crois qu'à mon niveau, je suis très, très attaché à ça. Je ne sais pas combien de fois dans l'année, je me rends au village. Et nous avons, pour ce qui me concerne, pour mon village, peut-être que je vais profiter de lancer un appel pour tous ceux qui sont intéressés effectivement de venir visiter Sien, qui est Sien. Mon village, d'ailleurs qu'on appelle Petit Paris.
Petit Paris, ah.
Ah oui, mais si vous arrivez effectivement dans la province de Nayala,
oui.
Vous dites, croisez quelqu'un, vous dites que vous voulez aller à Petit Paris.
Ah d'accord.
Tout simplement.
D'accord.
On va vous mettre sur le chemin de ce petit village. Alors donc, pour dire que, en fait, c'est une manière effectivement d'exprimer effectivement la dynamique effectivement au niveau, à l'échelle du village. Hein. J'ai présidé pendant 6 ans aux destinées d'une association, l'association dont je parlais tantôt, l'ADESI, que nous avons d'ailleurs, si vous voulez, mis à l'écrit l'expérience à travers ce l'éveil des campagnes africaines, cet ouvrage qu'on a publié effectivement à l'Harmattan. L'ADESI, c'est une association de ressortissants du village. Et qui, à travers, n'est-ce pas, la coopération décentralisée, arrive à réaliser beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et c'est un petit village. Aujourd'hui, vous y arrivez, vous avez pratiquement tout. Rien que par l'effort, n'est-ce pas, des populations, un CSPS, une école, un lycée, une retenue d'eau, des puits à grand diamètre, des fourrages, autant d'infrastructures effectivement que les paysans ont, si vous voulez, par leurs mains, ont participé effectivement à leur réalisation. Et avec l'appui naturellement des amis, des partenaires. Le village est jumelé avec une petite commune allemande qui est très très dynamique effectivement, qui nous aide beaucoup. Aukrug. À Aukrug d'ailleurs, ils ont créé aussi l'association Jumelage Sien Aukrug et le jumelage également au village, à l'échelle du village, fonctionne très bien. Et ce partenariat permet effectivement, j'allais dire, de transformer, si vous voulez, la vie des populations, n'est-ce pas, au village. C'est très important. Et pour la petite histoire, quand j'étais encore au lycée, j'ai souvenance que on avait une commune française. Si le nom ne m'échappe peut-être pas, c'est, je crois, c'est la mort Servolex.
La mort Servolex.
C'est pas cette autre. En Alsace, je sais pas, quelque part.
Oui, c'est pas d'ici en tout cas.
Voilà, ça. Donc la mort Servolex était jumelée, était amie, n'est-ce pas, à ce petit village. Et ils nous ont aidé d'ailleurs dans la construction de la toute première école du village, de 3 classes. Et puis. Malheureusement, je ne sais pas par quelle acrobatie, malheureusement, plus rien. On n'a plus les nouvelles de nos amis. Bon, j'avoue que je...
Changement de personne, naturellement.
J'ai compris plus tard, effectivement, que tout ce système vit, effectivement, selon les vicissitudes, effectivement, du système politique. Alors, donc, malheureusement, nous avons perdu, effectivement, nos amis français. Bon, donc, pour ceux qui veulent toujours venir accompagner ce village, ils sont la bienvenue à Sien. Dans un partenariat effectivement gagnant-gagnant, sur le plan de partage, n'est-ce pas, de culture, de manière de voir, de manière de faire. Je crois que mon village a donné, il a aussi à recevoir effectivement des autres. Je crois que ça, c'est un appel pour ceux qui seraient intéressés de venir, n'est-ce pas, à Sien, ils seront la bienvenue.
Oui, ça, donc c'est un appel, hein, à Sien. Alors, est-ce qu'ils peuvent se renseigner s'il y a un maire qui vous écoute et qui est partant d'un petit village là-haut?
Donc, a dit qu'ils viennent, ils veulent venir à Petit Paris.
Ils veulent venir à Petit Paris, d'accord. Parce que, effectivement, il y a quand même, on voit bien dans les jumelages, il y en a quand même un certain nombre ici. C'est un enrichissement mutuel, en effet. La partie peut-être plus matérielle, concrète, financière, elle vient plutôt effectivement de chez nous. Mais il y a des échanges après qui se font quand c'est fait, comme vous dites, de façon très riche et très intelligente. Bon, tout le monde en retire quelque chose et vraiment il y a des échanges. Et il y a des échanges en ce moment qui se font un peu autour de chez nous. Ben écoutez, de toute façon, nous on est à l'écoute. Si j'entends parler de ça, bon moi j'ai vos coordonnées.
Merci.
Je vous en informerai parce que je suis témoin qu'il y a beaucoup, à recevoir. Hein. Voilà, il n'y a pas simplement à donner, il ne faut pas voir ça sous angle de donner, il faut voir aussi sous tout ce qu'on peut recevoir, tous les échanges, et y compris aussi dans justement l'agriculture traditionnelle, par moment, les techniques, etc. On a aussi des choses à apprendre. Bon, donc, ben écoutez, c'est un peu dommage parce que on est frustré, on va être obligé de s'arrêter. Mais donc, je vous rappellerai que j'ai reçu, donc, pour ces deux dernières émissions, là, les émissions passées de l'Afrique dans tous ses états, j'ai reçu donc Patrice Toé, donc, qui est maître de conférences d'anthropologie au département sociologie et économie rurale, entendez bien, à l'université Nasdi Boni de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, qui a écrit un livre qui lui paraît très intéressant, qui s'appelle Les avec son association L'éveil des campagnes africaines, donc c'est tout aux éditions L'Harmattan, et que je le remercie beaucoup d'être venu nous avoir apporté tous ces éclairages sur toute la ressource agricole. On a parlé tout à l'heure ressources de la terre dans son pays, toutes ces leçons d'espoir et tous ces côtés novateurs et tous ces espoirs dont il nous a fait part. Et je fais tous mes vœux pour qu'effectivement le Burkina Faso décolle plus que plus. Je vous dis au revoir à tous et je vous dis à bientôt.
L'oiseau n'a pas de sein, mais Dieu fait grandir ses petits. Quelle qu'en soit la beauté de l'aventure, n'oublie pas de revenir au bercail, car c'est là-bas tout a commencé et c'est là-bas tout doit finir.
Nekajama Burkina Beu, onga kadomba e. Liki kaka doma de yo, pika ke sabari bae. Neka jama Burkina biu, onga kadoma e. Liki kaka doma de yo, pika ke munyumba e. Yere ke na loma, uji ma ke na loma ye. Bade Burkina biu, oma wolo na luma yala. Kala e karila, karila bolo fula ne bolo. Fula ye farana, ngai farana bolo fula ne bolo. Kuma ye chayala, ngai chana da fula ne dao. Noma kake munyumba e, munyumba lebe diyano. Bade Burkina biu, onga kadoma e. Aina o chunga denunga ye nasuli. Aina o nganga pasuloni hakili nyumanye. Siti kono fe, alale bade mbalo. Siti kono ye, alale baba lolao. Libon konona noyala niye kenema mane Burkina biu ngaina del seu nyasi comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés, mon Dieu. Pardonne nos offensés, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés, Seigneur. Mané Burkina biu, naina demseu nyasi. Allez, mon père Burkina bé, c'est à toi que je m'adresse. Écoute-moi très bien. Mes frères burkinabés qui sont à l'aventure, rejoignez le pays car le pays a besoin de vos services. Et surtout, revenez avec des bonnes idées. Ensemble, nous allons construire le pays et main dans la main, nous allons vaincre la pauvreté pour le bien de nos fils et petits-fils. Mon père burkinabé, ce n'est pas tout. L'espoir est là, car l'oiseau n'a pas de sein, mais Dieu fait grandir ses petits.